Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Eh bien, on va ouvrir un texte de la parole de Dieu. Je vais vous donner donc la référence d'ici quelques instants. Mais je voudrais introduire par cette réflexion que nous connaissons tous, parce que c'est un lieu commun, que l'on soit croyant ou que l'on soit incrédule, dans les livres d'histoire, à travers le langage qui est le nôtre, dans nos relations les uns avec les autres. Vous avez souvent entendu, et nous l'employons nous-mêmes, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, comme une référence dans l'histoire de l'humanité, à travers, bien sûr, dans le contexte du christianisme, hein, parce que je pense pas que c'est la même chose chez les musulmans ou les bouddhistes, mais en ce qui concerne nos pays occidentaux christianisés, c'est souvent ce que l'on dit, hein, et dans les livres d'histoire, on l'a vu, hein, très souvent nous-mêmes, on l'a lu, eh bien, c'est toujours avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, comme s'il y avait une rupture, il y avait deux mondes différents en quelque sorte, hein. Et ça nous sert naturellement, eh bien, là, de repère. Alors, on a quelque chose qui est très intéressant parce que il est unique ce passage dans l'Écriture sainte. Il est finalement, eh bien, là, consigné par l'Évangile de Jean. Quelque chose qui quelque part, eh bien, dépasse et transcende cet avant Jésus-Christ et cet après Jésus-Christ. Et moi, ce matin, j'aimerais m'inspirant de ces quelques paroles qui nous sont laissées. Eh bien, vous dire que qu'est-ce qu'il y avait avant? Quelle question! Eh oui. Et imaginez-vous que la Bible nous en parle. Et Jean nous en parle. Et si je vous parle, finalement, si je vous dis, vous avez tous lu, nous avons tous lu, peut-être quelquefois avec une compréhension un petit peu plus difficile, du prologue de Jean. Vous savez, le prologue de Jean, dans l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean ne commence pas au chapitre premier, au tout début du chapitre premier. Il commence bien après. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors, les théologiens l'ont appelé prologue. Alors, prologue, c'est simplement, eh bien, tout simplement, c'est un nom qui dit bien ce qu'il veut dire, dans ce sens que pro, en grec, c'est avant, et logue, c'est tout simplement logos, c'est-à-dire discours, avant le discours, avant l'écriture que Jean va nous livrer. On sait très bien que dans l'évangile de Matthieu, Jésus est présenté comme celui qui apparaît à la naissance. Alors il y a naturellement tout le contexte que nous allons vivre d'ici 3-4 semaines, Noël, la nativité. Et on est face à une présentation, tout simplement, eh bien là, du Messie. Matthieu, c'est le Messie annoncé aux Juifs, hein, et naturellement à tout le monde, hein, c'est accessible. Mais en tous les cas, les choses sont présentées de cette manière, hein, donc avec les détails qui nous sont donnés, voilà, toutes sortes de choses. Quand vous arrivez à l'évangile de Marc, il nous est présenté. Il ne commence pas à la naissance de Jésus, l'évangile de Marc. Il débute au moment où Jésus va rentrer dans son ministère. Et le premier qui apparaît dans l'évangile de Marc, c'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste. Qui lui annonce. Voilà. Qui dit, voilà, eh bien, je suis la voix qui crie dans le désert. Faisant référence à toutes les prédictions, les prophéties qui ont traversé l'histoire du peuple d'Israël. Préparation, anticipation. Ça, c'est l'évangile, donc, de Marc. Où il est parlé, où Jésus est présenté comme l'homme serviteur. Alors on a beaucoup de guérisons dans cet évangile, beaucoup de faits et de gestes de Jésus. Ensuite, quand on arrive à l'évangile de Luc, eh bien là, tout à nouveau comme Matthieu, on revient en arrière et Jésus apparaît comme le petit enfant qui naît dans une crèche avec les anges, avec là, eh bien tout le contexte des bergers. C'est encore un petit peu plus nourri que l'évangile de Matthieu. Hein, c'est la féerie d'un petit enfant, un petit homme qui arrive dans le monde, mais il n'est pas seulement homme, non. Et c'est ce que nous allons voir d'ici quelques instants. Quant à Jean, Alors Jean, il nous propulse. Il nous propulse dans jusqu'aux sources de l'éternité. Et c'est assez étonnant de voir un petit peu les choses, comment elles sont présentées, parce que quelque part, c'est époustouflant. Et pour ceux qui se sont intéressés à la question, ce que nous avons vu très récemment avec quelques chrétiens ensemble ici, c'est ce que l'on peut appeler tout simplement la préexistence de Jésus, la pré-incarnation de Jésus. Et je vous invite à lire dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 1er. Et là, il est question finalement, non pas du Dieu homme Messie, non pas du Dieu homme serviteur, non pas du Dieu, comme Luc le dit, et j'ai donc je le précise, c'est Jésus, fils de l'homme, mais là c'est Jésus, fils de Dieu. Alors on va lire, parce que c'est vrai que ce contexte est assez difficile peut-être, mais néanmoins, eh bien, il nous montre encore à plus forte raison que celui en qui nous croyons, celui qui nous a appelés au salut, celui qui nous sauve, celui qui nous donne la vie éternelle, eh bien, c'est Jésus, et Jésus est Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Rien à voir avec les mythologies grecques, nordiques et tout ce que vous voudrez, où véritablement, eh bien, ce sont des dieux humains qui descendent sur la terre, des prétendus dieux avec un D majuscule, minuscule, pardon, et qui viennent là pour essayer de, voilà, hein, d'utiliser les hommes à leur guise, selon leurs caprices. Alors on va lire ça. Donc, Évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, entendez par là le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous ceux qui croient en lui, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Alors c'est intéressant finalement que nous ayons ce prologue, c'est-à-dire avant le discours qui met en scène, qui met devant chacun d'entre nous la personne, la personnalité, les œuvres, les faits et les gestes, les actes d'amour de Jésus. Mais il fallait dire cela. Et vous avez remarqué, on ne le retrouve pas dans les trois précédents. Parce que finalement, eh bien, ça fait partie d'une parole qui est résumée dès l'abord que nous avons vu ensemble au commencement. Et vous avez remarqué avec moi que ce « au commencement », nous le trouvons dans la première page de notre Bible, dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, il est question de la création matérielle du monde, y compris naturellement l'humanité, comme le couronnement du génie divin, en donnant à l'homme la suprématie sur toute la créature, la création de Dieu. Et nous apprenons des choses qui sont tout à fait particulières parce que quand on regarde par le détail, il est question dans cette annonce, ce prologue, logo, ça veut dire parole, hein, naturellement, et on s'aperçoit qu'il est mis en avant à ce moment-là Dieu qui parle, dont cette parole sera consignée pour l'éternité parce qu'il faut, elle sera écrite, elle ne disparaîtra parce que on sait très bien que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et miracle de Dieu, on s'aperçoit que la Bible, notre Bible qui a été composée sur 1600 années par différents auteurs, hein, qui se sont égrenés, eh bien, est encore le livre le plus lu, le plus vendu dans le monde encore aujourd'hui. On l'appelle l'Écriture sainte, on l'appelle la Bible. Si vous voulez, on peut lui donner cet adjectif, la Sainte Bible. Elle a traversé les temps. Mais un livre est un livre. Celui-ci est exceptionnel. Celui-ci nous parle de choses que nul autre livre nous entretient et nous révèle. Pour que ce ne soit pas un mystère, il est voilé pour les incrédules, mais il est ouvert pour les croyants. Par l'illumination que Dieu donne à cette parole, parce que ce n'est pas seulement une parole, c'est une personne. Une personne. C'est-à-dire qu'il y a dans cette révélation le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont trois personnes, une personne unique en trois personnes, qui sont de la même nature divine, mais différentes en action. Le Père créateur, le Fils rédempteur et l'Esprit qui lui, eh bien, en quelque sorte répand la connaissance. Inspire, sauve, guérit, enfin, tout ce que nous pouvons, eh bien, connaître de l'œuvre du Saint-Esprit, hautement révélée, non pas dans l'Ancien Testament, parce qu'il est encore caché, mais dans le Nouveau Testament. Parole de Dieu incarnée. C'est cela. Heureusement que nous avons le Nouveau Testament, parce qu'il manquerait quelque chose. Dans la compréhension de la création de Dieu, de qui est Dieu, en quelque sorte. Parole de Dieu incarnée. Une parole qui se fait vivante. C'est pas une parole morte, une lettre morte. C'est une parole vivante, parole incarnée. Où Jean nous dira, d'une manière tout à fait particulière dans son évangile, c'est cette parole incarnée, logos, celle qu'il faut croire pour avoir la vie, alors que tout est frappé de mort. Pour renaître. Ou si vous aimez mieux, naître de nouveau. Et ce n'est pas pour rien que le seul exemple formidable, extraordinaire que nous trouvons ne se trouve pas ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, mais dans Jean, quand il est question de Nicodème, la nouvelle naissance. C'est une merveille, frères et sœurs. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de divin, on peut dire. 91 fois, il nous est dit, il nous est parlé de la parole incarnée. Je n'ai pas encore dit le nom, mais vous l'avez deviné, cette parole incarnée. Qui est cette parole incarnée? 91 fois nous est dit qu'il faut croire en cette parole qui est dite parce qu'elle est la vérité. Elle est la révélation de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ pour avoir la vie. Et vous remarquerez que dans l'évangile de Jean, le mot vie éternelle revient très très souvent. Le mot « vie » également est cité plus de 35 fois dans l'évangile de Jean. Donc, on a parlé, et je ne veux pas me répéter, mais on a parlé de l'évangile de Matthieu. C'est la naissance, c'est l'incarnation, c'est le Messie attendu pour les Juifs. L'évangile de Marc, c'est Jésus, homme, serviteur. C'est le début du ministère qui commence non pas par Jésus, mais par Jean-Baptiste qui annonce. Luc, c'est tout simplement le Fils de l'homme qui est présenté. C'est un récit d'histoire de l'humanité, l'évangile de Luc, hein, avec les généalogies. Vous remarquerez tout cela, hein. Et l'évangile de Jean, eh bien, c'est Jésus, le Fils de Dieu. La parole faite chair. Où un coin du voile de ce mystère nous est révélé à travers la préexistence de Jésus. Divinité dévoilée. Mise en avant pour chacun d'entre nous. Qui se manifestera à travers l'Ancien Testament, à travers ce qu'on appelle les Christophanies, où Jésus, il n'est pas dit Jésus, mais Jésus voilé, mais où à travers ses apparitions, comme à Gédéon, comme dans d'autres situations, où véritablement, eh bien, Dieu est déjà là, et Christ est déjà là, en quelque sorte, en Dieu, et il va porter le même nom, les mêmes attributs, les mêmes caractères que Dieu, mais ces christophanies disparaîtront lorsque Jésus va arriver en chair. Pour l'instant, il n'en est pas là dans l'Ancien Testament. Ou dans tout cela, eh bien, nous est présenté Jésus, l'agent de la création. N'avez-vous pas lu dans le livre des Proverbes que Jésus était déjà présent quand les étoiles, quand le firmament, quand la terre a été créée, au-dessus de toute création, de toute autorité, de toute chose. Où il est question de son humanité qui nous est dévoilée également dans la manière dont Jésus est venu et il s'est comporté. Il a eu faim, il a eu soif, il s'est comporté comme un homme, à la fois de sa double nature, divinité et puis également humanité. Il révèle la vie spirituelle. Ce que c'est que la véritable vie spirituelle? Parce que ce n'est pas seulement la conversion, c'est auprès de la conversion ce qu'il y a. Ce que nous connaissons, nous, dans chacun d'entre nous. Parce que si nous nous contentions tout simplement de dire « Je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé », très bien. Mais après, il y a tout un cheminement qui nous prépare pour le ciel. Et Jésus va l'expliciter d'une manière extraordinaire, admirable. La vie spirituelle dévoilant que l'homme n'est pas fait seulement d'un corps matériel, mais qu'il est fait avec une âme et un esprit qui demeurent éternellement. Et c'est pour rediriger cette âme et cet esprit, cette âme perdue, que Jésus va nous dire, eh bien, moi je vous propose la vie éternelle, c'est-à-dire une éternité dans sa présence et dans sa gloire. Imaginez-vous le privilège qui est le nôtre, hein, si nous le mesurons naturellement. Jésus se présentera dans l'évangile de Jean comme la lumière. Je suis la lumière du monde. Il se présentera comme la grâce, nous l'avons lu, et la vérité, nous l'avons devant nos yeux. Et la gloire également. Parce que tout le but de tout cela, c'est que Dieu soit glorifié. Et que le défi du mal, le défi de la mort, le défi du diable soit relevé dans la personne de Jésus-Christ. Puisqu'à la croix, ça a été la défaite totale et complète, finalement, de l'adversaire. Qui a été complètement défait. Nous le croyons et nous sommes vainqueurs parce que nous le croyons dans la personne de Jésus. Parole incarnée. Et il y a ce texte qui est magnifique, c'est celui du livre des Hébreux. On pourrait dire le commencement du livre des Hébreux, c'est quoi? Il a parlé dans les derniers temps par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ce qui me fait dire ce matin et affirmer que nous avons tout, tout pleinement en Jésus-Christ. Qu'il est le reflet de la divinité, si je cherche. Qui est Dieu? Eh bien, Jésus nous répond à cette question. Montre-nous le Père. Et les disciples du moment qui poseront cette question, entendront, mais celui qui m'a vu, celui qui m'a connu, dit Jésus, eh bien, a vu le Père. Avons-nous besoin d'une autre révélation? C'est la parole incarnée, c'est le Logos, c'est ce que nous dit finalement, eh bien, en quelque sorte, en substance, ce prologue, avant le discours, qui nous parle et qui nous dit la vie de Jésus. Et fallait-il le savoir? Ça, c'est quelque chose. Et le but ultime de sa personne, de ses œuvres, de sa mission, eh bien, nous le trouvons tout simplement, et ce sera la conclusion du livre de l'évangile de Jean, quand il nous est dit simplement cette parole, parce qu'elle est très belle et nous devons nous en souvenir en tant que chrétiens, au chapitre 20 et au verset tout simplement 31, il est dit ces paroles, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples, et Jésus est homme à ce moment-là, hein, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites pour nous ce matin, et nous en parlons, hein, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mes frères et sœurs qui sommes réunis ce matin, vous tous, vous croyez en Jésus-Christ, eh bien vous avez la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous l'avons. Je ne la cherche plus. Je ne suis pas comme ce jeune homme qui se précipite vers Jésus un beau matin et qui lui dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle ?» Nous en sommes plus là maintenant. Nous avons cette conviction. Oui ou non? Eh oui, nous avons cette conviction. Quoi qu'il arrive, bon ou mauvais moment dans notre vie, et ça c'est quelque chose qui est important. Je reprends. Au commencement était la parole. Il n'y a pas de création d'auto-création matérielle de la matière. Elle ne s'est pas créée elle-même, la matière. C'est l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre une telle chose? Mais moi, je crois simplement à ce que me dit cette parole, parce que c'est la vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et mieux encore, la parole n'était pas seulement avec Dieu, mais elle était Dieu. Et à chaque fois que nous ouvrons cette parole, que nous la commentons, que nous la transmettons, que nous en témoignons d'une manière ou d'une autre, eh bien nous sommes les transmetteurs, les communicateurs, les émetteurs de cette parole de vie. Parce que Dieu est la vie. Et nous commettons, nous émettons tout simplement, eh bien là, cette pensée. Elle était avec Dieu, accompagnant Dieu dans la création, dans l'origine des choses. Et elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Nous sommes confrontés dans notre monde d'aujourd'hui à deux directions complètement opposées. Il y a la confession de la Bible et il y a la confession d'un certain anglais qui s'appelait Darwin. Le créationnisme et l'évolutionnisme. Et là, ça fait choc, hein. Parce que quand on voit que dans la Bible, il nous est dit que Dieu créa les animaux selon leur espèce, et je dis bien, selon leur espèce, et une espèce ne va pas muter sur une autre espèce, qui ferait que l'évolutionniste nous dirait que, eh bien, nous sommes que des animaux qui ont évolué. Excusez-moi, mais l'homme c'est l'homme, et les animaux sont les animaux. Avec des caractéristiques bien précises et d'une supériorité inimaginable entre un singe dans lequel je me reconnais pas, et puis un homme que je suis et que vous êtes, avec des capacités, même si les animaux arrivent à se débrouiller avec un bec, avec des pattes, avec toutes sortes, ça c'est leur domaine, selon leur espèce, on comprend bien. Ça va pas plus loin. Un singe a toujours été un singe. Un éléphant a toujours été un éléphant, même si ça trompe. Un homme est un homme. Vous comprenez ? Ben bien sûr que vous le comprenez. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Le « toutes choses » est important. Dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Et Jésus le dira. C'est Paul qui le dira de la part de Jésus, enfin, inspiré par Jésus. Il dira, mais tout ce qu'il y a autour de nous, la création, la divinité, se voit comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Son éternité, sa divinité, les merveilles de la nature, parce que ça c'est quand même aussi un grand livre de révélation de Dieu, la création. Toutes choses ont été faites par elle, et rien, ni le plus petit, même la moindre erreur n'a été commise, parce que c'est la perfection, Dieu est la perfection, eh bien rien n'a été fait sans elle. Et il nous est dit qu'elle était la vie, le souffle. Ouais. Parce que la matière... S'il n'y a pas de souffle, s'il n'y a pas l'animation, eh bien la matière elle est morte. Et on le sait très bien, puisque nous sommes dans un régime qui est celui d'une économie, finalement, qui est celle de la vie, la mort, et puis voilà, le renouvellement, hein, mais il n'y a rien du tout. Un corps sans âme est un corps qui est mort, on le sait ça. Elle était la vie. Et figurez-vous, mes frères et sœurs, nous avons reçu la vie dès l'instant où nous avons cru que Jésus était notre sauveur, qu'il nous pardonnait nos péchés, et il est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort pour avoir la vie. Sa mort nous donne la vie. Mais sa mort nous donne la vie qu'à la condition que je le crois. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Elle était la vie était la lumière des hommes. Encore une autre révélation. Pour nous montrer qu'il y a deux oppositions. Il y a les ténèbres d'un côté, et il y a d'un autre côté la lumière. Et ce n'est pas une lumière naturel comme le soleil, la lune et puis les étoiles, c'est une lumière intérieure, c'est une lumière qui est là à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous l'avons bien vécu lorsque nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, il y a eu comme une illumination qui s'est passée à ce moment-là. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais il y a quelque chose, après avoir lu la Bible et avec des difficultés pour la comprendre, à un moment donné l'Esprit de Dieu est venu m'éclairer, il vous a éclairé et on a compris des choses qu'on ne comprenait pas avant. Lumière. Alors il était, la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Quelle grande tristesse que la révélation de Dieu que la parole incarnée, que la personne de Jésus, pour être plus précis, ni avant le temps, avant Jésus-Christ, ni après, les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. Et ça, ce problème est résolu à travers l'Évangile, dans la mesure où les gens veulent bien en prendre la mesure, prendre conscience et s'humilier devant Dieu. Oui, les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand on voit le traitement de Jésus à la croix du calvaire, quand on voit le rejet, et le rejet qui était de toute façon tout à fait particulier, parce que ceux qui ont pleuré pour l'attendre et pour qu'il vienne, au moment où Jésus s'est présenté, le Messie des Juifs, eh bien, on sait ce qu'ils en ont fait. Ils l'ont tué, ils l'ont mis à mort, ils l'ont crucifié. Dans l'histoire, il nous est dit qu'il y a eu un homme qui était apparu. Il s'appelait Jean, un prophète, dernier prophète de l'Ancien Testament, qui a été là d'une modestie extraordinaire, comme tous les anciens prophètes authentiques de l'Ancien Testament, mais en délivrant un message parce que le temps était venu. Le temps de l'avant Jésus-Christ et de l'après Jésus-Christ était ouvert à ce moment-là. Il vint pour servir de témoin. C'était pas lui, mais c'est celui qui l'annonçait. Comme des centaines et certainement des dizaines de prophètes avant lui, et il était aussi la parole en quelque sorte, mais il portait la parole, il était porteur de la parole, pour que apparaisse véritablement dans toute sa réalité, eh bien, ce message de Dieu, message incarné, message vivant, hein. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, tous. Déjà, nous sommes dans l'universalité du salut, en quelque sorte. C'est pas seulement les Juifs, tous. Déjà, une première touche que Dieu, dans son plan, n'avait pas seulement prévu de sauver les Juifs, mais de sauver le monde entier, comme nous le voyons aujourd'hui. Pour que tous croient par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il était porteur de lumière. C'est lui qui tenait le flambeau, en quelque sorte, pour éclairer dans les ténèbres d'Israël, de toute cette, de ce marécage, de ce labyrinthe dans lequel était enfermé le judaïsme, qui se mourait de plus en plus, où la lumière véritablement de la révélation allait s'éteindre complètement et totalement. Jean était celui qui portait la lumière pour que, véritablement, eh bien, le peuple élu d'Israël puisse se réveiller de son long sommeil, de sa léthargie, de son traditionnalisme, de son ritualisme, parce que les choses avaient été complètement dénaturées. Vous avez changé les commandements de Dieu vivant et vous en avez fait finalement des traditions qui aujourd'hui, eh bien, n'ont plus cours ou n'ont pas aucun intérêt. Et c'est ce que nous voyons du christianisme. Nous pouvons dire que notre christianisme, s'il n'y a pas une révélation dans les cœurs de Jésus-Christ, le christianisme est mort, hein. Ça, c'est clair, hein. D'autant plus que les Juifs gardaient encore la parole, mais nous, la parole, on ne sait plus tellement où on en est rendu, où on l'a complètement dénaturée. Hein. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que ceux qui croient par lui soient sauvés. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Ouais. Vous savez, dans l'évangile de Jean, pas l'évangile, mais l'épître de Jean, il nous est dit au chapitre 5 et au verset 20, parce que c'est très intéressant de pouvoir retrouver peut-être quelques textes qui étayent ces affirmations. Il est dit cette parole, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans la lumière et le monde entier, et c'est la puissance du malin, la puissance des ténèbres. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné. » Oui, c'est le chapitre 1, Jean, chapitre 5, verset 20. Voilà, donc je reprécise. Hein. Donc, verset 20, il est dit ceci. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, la lumière, la compréhension, ouvrir notre esprit qui était embrumé, qui était complètement englué dans toutes sortes de superstitions, de craintes et de peurs, et de toutes sortes de légendes et de fables. Alors, il nous est dit qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Eh oui. Que de révélation, mes amis. C'est quelque chose. Il était la lumière, il est venu éclairer notre esprit. Et là, nous avons pu découvrir que Jésus est le Dieu véritable. Et c'est celui-là qui nous sauve, c'est celui que Dieu a donné. Cette lumière, elle éclaire tout le monde, tous les hommes dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. On revient toujours au début du prologue, et le monde ne l'a point connue. Ouais, C'est toujours ce rejet qui est toujours là, qui revient. Jésus vient, Jésus paraît, Jésus apparaît, Jésus se manifeste de différentes manières, par la parole, par la lumière, par la vie, etc., etc. Et il y a deux oppositions, il y a un antagonisme qui se développe parallèlement, alors que Dieu veut éclairer le monde, et qu'il y a là, eh bien, une force ténébreuse qui est là pour obscurcir, pour garder et maintenir dans les ténèbres, dans l'obscurantisme des hommes. Ils avancent tous les deux. Et elle est venue chez les siens, cette lumière. On voit apparaître Jésus dans les évangiles. Alors il y a un enthousiasme chez quelques-uns, une révélation chez quelques-uns, mais il y a un terrible doute qui va planer à ce moment-là, quand Jésus va arriver. Bon, c'est le fils de Joseph. Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Qui est-il, ce va-nu-pied, ce marcheur en sandales de Nazareth? Que fait-il? Que fait-il? Alors il va y avoir une contestation. On s'aperçoit qu'à un moment donné, au fil des présentations de l'évangile, les gens disent, mais c'est Élie, c'est un des prophètes, c'est ceci et cela, c'est véritablement on ne sait plus. Ben, vous savez, on ne sait jamais plus. Quand on a mis la parole de Dieu de côté, on n'est plus finalement, eh bien là, à se nourrir et à se ressourcer finalement dans nos convictions. Alors elle est venue chez les siens. Jésus a été finalement, eh bien là, chez ceux qui, de sa même nation, de sa même race, eh bien ne l'ont pas reconnu. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est terrible parce que ça s'arrête sur le mot reçu. Ça veut dire finalement, eh bien crucifié. Et pourtant il a fait l'admiration. Même, il a fait taire ses adversaires. Nul homme n'a parlé comme cet homme. La parole qui vient du ciel. Il nous est dit même que au cœur des synagogues, il nous est dit, mais même nos scribes ne parlent pas comme lui. Parce qu'il y avait là une autorité, il y avait une souveraineté, il y avait une parole qui venait pas de la terre, qui ne venait pas des religions, qui ne venait pas de la cogitation religieuse des hommes, mais qui venait directement du ciel. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais, et ça c'est pour nous ce matin, parce que c'est, je crois que c'est quand même quelque chose de très très important pour nous conforter dans notre foi, il est dit, mais à tous ceux, et il y en a des millions, voire qu'il y en a des milliards à travers tous les siècles, ce que peut gérer des hommes et des femmes qui se sont convertis à Jésus-Christ, des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ce que nous sommes, nous avons reçu Jésus. À ceux qui croient en son nom, c'est comme s'il y avait là toujours des superlatifs, où il y avait toujours une insistance supplémentaire pour bien dire, mais vous l'avez reçu, mais vous avez cru en son nom. Vous l'avez reçu parce que vous avez cru. Comment peut-on expliquer les choses plus clairement? Et comment l'homme est-il suffisamment subjugué pour ne pas comprendre cela? Alors, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné. Oh, ce mot extraordinaire. Elle a donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et dans tout le message évangélique, il y a le mot « don ». On le trouve à la croix, on le trouve à travers les guérisons divines, on le trouve à travers là, toutes les manifestations d'amour dans les actes, dans les paroles, à travers la personne de Jésus. Il a donné le pouvoir, pas seulement le vouloir, mais le pouvoir, la capacité que l'homme n'a pas, Dieu va nous le donner. C'est pour ça que quand on dit « nous », dans notre faiblesse, je ne peux pas. Non, il y a un problème. C'est que Dieu, et nous avons une belle prière dans les Philippiens, que Dieu crée en nous le pouvoir et le vouloir selon sa volonté, selon son bon plaisir. Mais si je le veux, je le peux. Si tu crois, tu pourras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu parviendras à ceci et cela, à ton étonnement propre, personnel, devant toutes les idées de négation, de négativité, ou de pessimisme que nous pouvons avoir, nous ne sommes que des hommes. Hein. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas dans n'importe quel nom, mais le nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous sommes venus dans cette vie à être des enfants, des fils et des filles d'hommes. Mais nous avons une autre dimension, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Eh oui. C'est quelque chose de savoir que nous avons double patrie maintenant. Nous avons la terre et nous avons le ciel. Et nous sommes, si vous voulez, dans votre vie spirituelle, comme dit Paul aux Éphésiens, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes assis là, hein? D'accord. Bon, c'est bien. Mais notre personnalité spirituelle, elle est déjà là-haut. Elle est déjà en Jésus-Christ. Devenir enfant de Dieu, et là je voudrais apporter une petite notion un peu particulière, lesquels sont nés? Toujours une question de naissance, hein? Voilà. Non du sang, c'est-à-dire de la nature. Non de la volonté de la chair, mettre un enfant au monde, on l'a pas choisi, hein? Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je rappelle cette petite parole parce qu'elle a quand même toute une portée tout à fait particulière. Né non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de Dieu. Et cela a une double conséquence, mes frères et sœurs, sur notre salut et la position qui est la nôtre avec cette certitude que nous avons dans notre cœur. À savoir que l'homme, celui qui naît deux fois, écoutez bien, celui qui naît deux fois, qui naît naturellement et qui naît spirituellement, ne meurt qu'une fois. Ça va ? Nous perdons notre vie naturelle, hélas. Mais c'est comme ça parce que c'est l'universalité et les conséquences du péché, de la corruption qui existe dans le monde. Celui, je le répète, celui qui naît deux fois. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné une nouvelle naissance. La première, j'ai rien demandé. Et vous aussi d'ailleurs, je m'en doute. Hein, qui nous a ouvert l'espace de ce monde matériel, la vie physique et puis tout ce que nous connaissons. Première naissance, deuxième naissance, c'est la vie spirituelle, c'est Nicodème, c'est ce que nous avons fait. Eh bien, on est avec cette certitude que nous mourrons qu'une fois. D'accord? C'est-à-dire la vie physique, nous la perdrons, ça c'est sûr. Par contre, celui qui n'est qu'une fois sur le plan naturel, mourra deux fois. Il mourra physiquement, il mourra spirituellement. Ça va? Vous avez intégré le système? Hein? Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Et quand Jésus nous dit d'une manière extraordinaire, parce que ça, j'aime ce texte dans Jean, tout ça c'est dans Jean, hein. Quand il dit celui qui croit en moi et qui vivra en moi ne mourra jamais. Eh, on peut se réjouir, non? Ouais. Oui, oui. Je suis heureux. Car Jésus, ouais, vous connaissez vos classiques. Et c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Merci Seigneur de ce que tu m'as donné de naître une deuxième fois. Parce que comme le commun des mortels, je déposerai mon enveloppe, enfin on la déposera à ma place, mais toujours est-il que ça sera une seule mort. Parce que vous savez qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse toute l'explication de ça. Il y a la première mort et la seconde mort. Voilà. Et nous vivrons éternellement dans la gloire, dans le bonheur parfait où il n'y aura plus de larmes, ni de pleurs, ni de souffrances. Et ça, comment pouvons-nous nous l'imaginer au regard de ce que nous connaissons sur cette terre qui est le contraire? C'est le contraire. Ouais. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Seigneur, donne-moi de trouver toute cette force, cet enthousiasme. Enthousiasme, c'est Dieu en soi, hein, en grec, hein. Enthousiasmos. Ouais. Pour pouvoir véritablement te contempler et te bénir, Seigneur, de ce que je t'appartiens. Tu es à moi et moi je suis à toi. Et que nous allons partager l'éternité. Et la parole a été faite chair. Voilà, nous y arrivons. La parole, cette préexistence de Christ dans le prologue, donc ce que nous avons dit il y a un instant, elle a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle a revêtu finalement eh bien tout ce que je suis moi-même. C'est-à-dire il s'est fait homme, Dieu s'est fait homme à travers la personne de Jésus-Christ. Et quand on dit, et je reviens sur ce que nous disions tout à l'heure, quand Jésus nous dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est Moïse qui a entendu ça, hein, quelque part. Alors elle a été faite chair, parce que Dieu est esprit et il ne peut se révéler qu'en esprit. Donc il fallait une manifestation de Dieu dans la chair. Et c'est Dieu qui s'est départi, qui s'est donné lui-même. Hein, c'est ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire, en quelque sorte, Jésus s'est dépouillé. Dieu s'est dépouillé complètement pour venir en Jésus plutôt. Et elle a habité parmi nous. On connaît toutes les histoires, hein, c'est les évangiles. Pleine de grâce et de vérité. Grâce et vérité, oui. Parce que Jésus n'est pas venu pour punir le monde, pour le condamner, mais il est venu pour le sauver. Pour quiconque veut bien entendre sa parole, naturellement. Hein, parce que le moyen de salut, c'est pas les œuvres, c'est pas la religion, mais le moyen de salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alors, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Oui, la gloire de Jésus. Quand je lis l'évangile, je vois la gloire de Jésus. Elle est encore tellement éloignée, tellement lointaine, voilée, mais néanmoins, si je regarde sa mort à la croix, qui semble véritablement une ignominie et une défaite, moi j'y vois déjà, en perspective, presque immédiate, la résurrection. J'y vois également, lorsque Jésus nous lève le coin du voile, lorsqu'il monte avec trois de ses disciples sur la montagne de la Transfiguration, j'y vois la gloire. Lorsque je lis, finalement, eh bien, les derniers pas de Jésus ou les derniers instants de Jésus sur le mont Galilée et qui va être emmené au ciel, ce qu'on appelle l'ascension, j'y vois la gloire. Je vois la gloire de Jésus lorsque je lis les rapports qui me sont donnés sur les guérisons miraculeuses, sur les résurrections, sur l'eau changée en vin, c'est la gloire de Jésus, hein. C'est la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ouais. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est appelé le Fils unique. Ouais. Unique. Nous sommes des fils de Dieu, mais lui, c'est l'unique. C'est l'unique sauveur. C'est l'unique médiateur. C'est l'unique que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Et c'est grâce à lui. Adam a été celui qui a conduit l'humanité au péché, par transmission et par incontinuité de la race. Mais Jésus est le nouvel Adam, celui qui nous fait vivre et qui nous donne la vie éternelle. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé. Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ouh, boum. Il n'est pas dit « j'étais », il est dit « je suis », faisant écho à ce que nous trouvons dans la question de Moïse au buisson ardent sur le mont Horeb. « Que dois-je dire ? Que tu es Dieu ?» Et Dieu va lui dire « je suis celui qui suis », c'est-à-dire « je suis Yahvé », qui a donné en français le mot « éternel », « éternel », ni commencement, ni fin. « Je suis celui qui suis ». Et vous avez remarqué combien Jésus multiplie combien Jean multiplie dans son évangile les comparaisons à travers des paraboles ou à travers des petites images. « Je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis ceci, je suis cela. » Pour amener les gens véritablement à comprendre que Jésus, c'est Dieu, que Jésus est. Parce que Yahvé, c'est être, c'est l'être. Et Dieu nous appelle, nous chrétiens simples que mortels que nous sommes, non pas à rechercher l'avoir, mais à rechercher à être notre vie, l'essence même de notre vie, être. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous savons tous, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce sur grâce. Merci Seigneur de ce que chaque fois que je me lève tous les matins, je dois considérer, je l'oublie hein, souvent, hein, mais je dois considérer que finalement le souffle, la lumière, le travail, les occupations, tout ce que je peux avoir, la santé surtout, eh bien tout ça c'est une grâce sur grâce. Et ça devrait me faire et nous faire exploser de louanges avant de commencer nos prières, de dire « Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as déjà donné, de ce que tu vas me donner et de ce que tu me donneras encore. » Mais c'est pas parce que mon rapport est un rapport intéressé d'un Dieu qui donne, mais c'est ce qu'est un Dieu qui est. Et je dois lui ressembler, être comme lui. Grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Mes frères et sœurs, c'est important ça. Je vais bientôt terminer. Hein. Oui, la loi a été donnée par Moïse. Elle a été donnée. Est-ce qu'elle est encore pour nous? La loi, si elle n'est pas animée, si elle n'est pas revisitée, si elle n'est pas finalement illuminée par le Saint-Esprit qui nous a été donné avec la venue de Jésus, la loi, elle fait mourir. Ah oui, la loi, c'est une condamnation, c'est une punition, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, il y a quelque chose de plus beau. On avait l'Ancien Testament, on avait pour nous. Et Dieu a changé les donnes. Il a dit maintenant l'Ancien Testament, c'est fini. Un apprentissage pour Israël, modèle certainement pour l'humanité, les commandements et le reste. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, bien que nous puissions nous en inspirer et nous en délecter lorsque nous voyons les livres historiques, poétiques en particulier, parce que c'est la manifestation et c'est l'élévation de nos âmes. Mais aujourd'hui, mes frères, en tant que chrétiens, il faut vivre dans le Nouveau Testament. Et là, nous avons la grâce et la vérité. Nous avons grâce sur grâce. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est ça l'épanouissement. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus finalement considéré comme un serviteur. Je suis un ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Et Dieu nous appelle mes amis. Et si je veux être encore beaucoup plus sensible, Dieu m'appelle mon fils et ma fille. Et là, la relation est encore un autre niveau. Ce n'est plus obéir à la loi, faisant un devoir. Mais aujourd'hui, si nous obéissons, mais nous obéissons parce que finalement, nous sommes motivés par l'amour et pas la crainte. C'est pas facile à comprendre tout ça, hein? Les vieilles habitudes, l'éducation religieuse et toutes sortes de choses, hein? Alors, elle a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Ouais. On revient toujours à la question, à la réponse de Jésus à Philippe, celui qui m'a vu, voilà. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Quelle belle parole que le prologue de Jean. Il nous l'a fait connaître. Je connais le Seigneur. Je connais Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Et puis, le verset 19 pour terminer, ou le verset 29 plutôt, il est dit, le lendemain, il vit Jésus, Jean-Baptiste vit Jésus, venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, la clé qui ouvre toutes les portes. Parce que Jésus est venu, parce qu'il est mort pour les péchés, c'est lui qui nous fait rentrer dans cette nouvelle dimension. Que Dieu nous bénisse ce matin, frères et sœurs. Il y a beaucoup de réflexions dans tout ça, hein? Mais sachez une chose, c'est que, moi je voudrais simplement vous le dire de la part du Seigneur, restez attachés au Seigneur. Ça, c'est important. Attaché au Seigneur. On pourra connaître plusieurs églises. On pourra connaître plusieurs régions ou plusieurs chrétiens, plusieurs choses. Mais l'essentiel de rester attaché à celui qui nous a dit « Je suis le chemin, alors suivez-moi. Je suis la vérité, croyez-moi. Je suis la vie, acceptez-moi. » Ça, c'est l'essentiel. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous réjouisse. Et que le Seigneur nous renforce par la grâce qui est capable d'inculquer en nous véritablement de lui être fidèle. C'est Jésus qui sauve. Jésus hier, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu nous bénisse, on va courber nos fronts quelques instants. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir ouvert l'esprit comme à mes frères et sœurs et de me montrer, Seigneur, que Jésus n'est pas un homme qui est apparu comme ça. Il est apparu pour sauver, ça nous le savons. Il est apparu pour vivre. Il est apparu pour bénir. Il est apparu pour mourir. Il est apparu pour ressusciter. Mais nous croyons que Jésus a été celui qui était avec Dieu, qui est Dieu, qui a présidé à la création du monde, de l'univers, et que Jésus n'est pas seulement créateur, mais il est rédempteur. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Comment nous pouvons nous imaginer qu'un Dieu si grand, un Dieu qui a créé toute chose, eh bien se laisse crucifier par les hommes, se livre entre les mains des hommes, et les hommes n'ont pas compris que c'était pour eux que Jésus est mort. Seigneur, merci pour nous. Merci parce que tu nous as donné de nous rendre capables de croire qu'en effet Jésus était mort pour moi, et nous te louons et nous te bénissons. Jésus est. Il est celui qui demeure. Et nous savons, Seigneur, que Jésus, pendant des siècles, a été caché, mais réel. Il est venu parmi les hommes, il s'est montré, et il a montré qui était le Père. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que Jésus est dans la gloire aujourd'hui, il revient bientôt pour nous prendre avec lui, et nous savons que nous régnerons avec lui pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.